Bonjour, bienvenue à ton châtel. Je suis Sylvain, votre guide pour cette visite du village. Durée, 1h30 à 2h. Si vous êtes en deux roues, en auto ou en bus, stationnez impérativement votre véhicule sur le parking arboré à votre gauche à l'entrée du village. Vous trouverez des toilettes sur l'esplanade de la mairie. La visite commence devant le parking, c'est le poste 1. À la fin du commentaire de chaque poste, je vous indiquerai la localisation du poste suivant, puis je vous inviterai, comme maintenant, à mettre votre lecteur en pause. Poste 1. Un éperon en sursis, l'éperon barré, repères historiques. Vos pieds reposent sur une plaque de calcaire très dure, faite de corail fossilisé, qui s'est formée dans une mer chaude et peu profonde il y a 150 millions d'années, quand la Lorraine dérivait du côté des tropiques. Cette plaque, enfouie sous d'autres couches de roches tendres, va être inclinée vers l'ouest par l'émergence des Vosges, puis déblayée par l'érosion, faisant naître la côte de Meuse, bordant sur un côté la longue dépression de la Wavre, l'autre côté de la plaine s'appuyant sur le revers de la côte de Moselle. Des ruisseaux, issus de la résurgence des eaux de pluie tombées sur le plateau et coulant vers la rivière selon un cours plus ou moins perpendiculaire au front de côte, vont dégager des indentations appelées éperons. Nous sommes donc aujourd'hui, comme sur une étroite presqu'île, aux falaises hautes d'une centaine de mètres, s'élançant vers l'océan de la plaine de la Wavre et vers la petite mer du lac de Madine. L'éperon barré. Voulez-vous faire de l'éperon d'Attonchâtel un refuge sûr contre une bande de cavaliers et de fantassins armés d'arcs et d'épieux? Creusez un fossé en travers l'éperon pour l'isoler du plateau. Déboisez entièrement les pentes et le pied de l'éperon. Placez un pont escamotable sur le fossé. Juste en arrière du fossé, dressez un rempart de terre et de troncs, ou bien de pierres taillées. Pour le prix de cet ouvrage, vous voilà maître d'un vaste système défensif ayant trois de ces quatre murs d'une centaine de mètres de hauteur. Pour plus de sécurité, vous pouvez rajouter un ou deux fossés en direction de la pointe de l'éperon pour vous y réfugier, préparer la contre-attaque si l'ennemi venait à prendre la première ligne de défense. Attonchâtel en a sans doute connu trois, au tracé encore reconnaissable dont un seul demeure, le fossé du château actuel. Mais plusieurs fois, la citadelle sera livrée au pillage malgré la construction au Moyen-Âge de remparts latéraux destinés à mieux défendre le village. Repères historiques. Attonchâtel est un site fortifié depuis la préhistoire. Mais sa grande histoire commence en 862, quand Lothaire II, fils du roi franc Louis le Pieux, peut divorcer de sa première épouse avec l'appui d'Aton, 29e évêque de Verdun. En remerciement, Lothaire lui offre un domaine comprenant une vingtaine de villages et le site fortifié du Mont aux Bruyères. Vers 870, Aton érige un château qui devient le site protecteur de la partie sud-est de l'évêché de Verdun, mais aussi le symbole de son pouvoir temporel et féodal. Pendant 7 siècles, la citadelle restera un lieu de refuge et de repos des évêques de Verdun. Ceux-ci la dotent d'un bourg, d'un bailliage, c'est-à-dire d'une circonscription fiscale où s'exerçait le pouvoir d'un bailli, représentant le seigneur, d'un hôtel des monnaies et d'une cour de justice exerçant sa juridiction sur la châtellerie d'alentour. Attonchâtel passe aux mains des ducs de Lorraine en 1546. Les provocations du duc Charles IV vis-à-vis du royaume de France plongent le pays dans la période la plus malheureuse de son histoire. En 1634, le démantèlement des remparts, des tours et du château sur ordre de Richelieu permet 2 ans plus tard le saccage de la citadelle par les Suédois, alliés des Français. Ces événements sonnent l'heure de la décadence pour la cité, qui devient une modeste bourgade agricole. De septembre 1914 à septembre 1918, Attonchâtel est occupé par l'armée allemande, comme l'ensemble des villages de la zone dite du Saillant de Saint-Miel. En 1972, Attonchâtel et 6 autres villages se regroupent dans la commune de Vigneulles, comptant aujourd'hui 1500 habitants. Fin du poste 1. D'ici, vous apercevez le lavoir et le calvaire vers l'entrée du village. C'est le poste 2. Poste 2. Belle Skinner, marraine d'Attonchâtel. Le lavoir, le calvaire. Ce lavoir, édifié en 1921, est un cadeau offert aux habitants du village par Belle Skinner, richissime américaine qui découvrit à Tonchâtel lors d'une tournée des villages français détruits des fronts de la Grande Guerre. Dans la zone concernée, dénommée la zone rouge, plus de 80% du bâti était en ruine. Du village médiéval d'Attonchâtel ne restait plus que quelques maisons, un mur du château et la collégiale, gravement endommagée. Belle Skinner finança la construction d'un nouveau lavoir, d'une mairie-école avec chauffage central et bibliothèque, la reconstruction du cimetière et l'adduction d'eau potable aux maisons depuis un château d'eau. Attonchâtel fut ainsi le premier village de Meuse à disposer d'un réseau d'eau courante. Elle offrit le monument aux morts et fit construire un nouveau château sur l'emplacement de l'ancienne forteresse. Elle acheta et restaura la maison à la voûte. Ses dépenses pour le village atteignirent 1 million de dollars, soit l'équivalent actuel d'une 12 millions d'euros. Les travaux qu'elle finança répondent tous à son projet de contribuer à créer une nouvelle qualité de vie au village, tournée vers la modernité et l'ouverture au monde, mais enracinée dans son passé proche et lointain. À ce titre, Attonchâtel constitue un ensemble émouvant, homogène et exemplaire de villages reconstruits. Le lavoir, façade rue. Les plans n'auraient été réalisés par des architectes américains proches de Frank Wright Lloyd, connu pour l'audace de ses lignes épurées et qui était un grand admirateur de l'architecture nippone. Les lignes du lavoir s'inspirent d'un petit temple japonais, avec sa toiture très débordante à faible pente, dépourvue de chéneaux. Il intègre des éléments médiévaux, tels que les piliers à chapiteaux romans, les arcs décorés, les contreforts d'angles et des sculptures évoquant d'amusantes gargouilles. Ce goût de l'époque pour le Moyen-Âge se retrouve aux États-Unis jusqu'à dans l'ornementation de certains gratte-ciel, mais ce choix permet aussi de renouer les liens du village avec son passé et de conjurer les peurs encore présentes dans un environnement sécurisant et chaleureux. Vous pouvez accéder au bassin en contournant le bâtiment. Cette façade plein sud offrait un superbe panorama aux lavandières. Un blason sculpté est aux armes d'Attonchâtel. Blason de l'évêché de Verdun à droite et les 3 alérions des ducs de Lorraine à gauche. Un 2e blason est orné d'une croix de Lorraine et le 3e du sceau de Guillaume de Haraucourt, personnage qui serait évoqué au poste 7. Le bassin surélevé permettait aux lavandières de travailler debout. Les bancs de pierre servaient à l'égouttage du linge. Un poêle à bois amenait un peu de chaleur en hiver. Le calvaire. Il existait déjà au XVIe siècle. Il marque l'emplacement de la halle du marché qui se tenait ici une fois par semaine. De là, on avait vu sur la pièce maîtresse de la forteresse d'Attonchâtel. La porte Notre-Dame, défendue par 2 hautes tours crénelées, est précédée d'un fossé profond de 4 mètres. Fin du poste 2. Le poste 3, la maison à la voûte et le monument aux morts, est juste après le parking. Poste 3. La maison à la voûte, le monument aux morts. La maison à la voûte, elle remonte au XIIe siècle. C'est la plus ancienne construction du village et sans doute une des premières en pierre taillée. Cet édifice était placé à l'avant de la fortification de la ville, contre le mur adossé au fossé défendant l'accès à l'éperon par le plateau. Cette maison fut mise à jour en 1919 pendant le déblaiement de la maison bombardée qui avait été construite par-dessus. Belle Skinner l'a achetée et a aussitôt entrepris les travaux les plus urgents de sauvegarde. En attente de nouveaux travaux de restauration et de sécurisation du site, l'accès en est formellement interdit. Depuis ce poste, vous apercevez la salle inférieure d'origine romane à laquelle on accède par un escalier, le sol étant à 2,20 m sous le niveau de la rue. On se trouve ici dans une sorte de crypte de plan carré, creusée dans la roche calcaire, au plafond de plus de 4 mètres de hauteur, tenue par 4 voûtes réunies sur un pilier central. Les murs en hors-sol, épais de 80 cm à 1 mètre, sont munis de contreforts d'angles destinés à épauler la voûte. 2 fenêtres en plein cintre en étaient la seule source de lumière solaire. Ce qui reste du premier étage semble dater du XIVe siècle. On peut voir, dans le mur du fond, ce grand arc de décharge d'un diamètre de 5 mètres à laquelle la maison doit son nom, et sur la droite, les 3 chapiteaux destinés à supporter d'autres arcs de la voûte disparue. 2 fenêtres romanes s'ouvrent sous le grand arc de décharge. Dans le haut du mur à droite, entre les deux ouvertures, essayez de repérer les restes d'une cheminée monumentale du XVe siècle. L'édifice achevé avait la forme d'une tour carrée très solide, comme celle qui existait déjà dans d'autres places fortes de Lorraine. Elle aurait été bâtie pour servir de logement de fonction à l'avoué et à ses lieutenants, chargés par l'évêque de la garde et de l'entretien de la forteresse. Le monument aux morts. Un peu avant 1930, Miss Skinner visite à Paris le salon des artistes indépendants et remarque la statue d'une jeune femme berrichonne en bonnet et en sabots. Elle l'achète pour l'offrir à la commune et en faire le monument aux morts d'Hattonchâtel. Elle est l'œuvre du sculpteur Louis-Ernest Nivet, né en 1871, mort en 1948, artiste berrichon, mais y a des d'or au salon de 1922 et qui a travaillé dans l'atelier de Rodin. Il est revenu du front, fortement marqué par la guerre. C'est pourquoi aucun de ces monuments aux morts ne représente un soldat victorieux brandissant son arme. La statue aurait dû être incluse dans un projet monumental, ce personnage devant représenter une mère priant sur la tombe de son fils mort au combat. Mais Belle Skinner a opéré un recadrage de l'œuvre, en la faisant installer seule, soignant hommage à ces jeunes femmes de France qui ont dû vivre la mort du quart des hommes jeunes, soigner 3 millions de blessés, dont la moitié l'ont été 2 fois, et participer en silence à l'effort de guerre comme à celui de la reconstruction qui ruinèrent la petite paysannerie. Celle-là sait qu'elle a tout perdu et que ses yeux ne liront plus le désir dans le regard de l'autre. Fin du poste 3. Le poste 4 est le portail sur rue de la grande maison construite en face du monument. Poste 4. Maison reconstruite après 1418, ruelle médiévale. Cette grande maison de maître, dite Maison Salmon, a été construite en 1922 dans le style gentilhommière. Elle appartient au patrimoine rebâti sur les ruines de 1418. Elle a été élevée en arrière de la précédente maison pour permettre la création d'un parc sur le devant. On aperçoit sur la façade une niche abritant une Vierge à l'enfant, serrant sur son cœur l'ancienne porte aux tours jumelles qui défendait l'accès au village. Elle est l'œuvre de Rémy Thiam, sculpteur lorrain, et s'inspire d'une œuvre ancienne disparue. Longez le mur. À l'angle, une petite ruelle donne accès à l'ancien presbytère qui a conservé quelques murs, sa cour pavée et son emplacement d'origine. L'impasse qui permet d'y accéder n'a pas changé depuis le XVIe siècle. Elle nous donne une idée des nombreuses ruelles qui existaient dans la citadelle, à l'intérieur de laquelle on avait construit le maximum de maisons séparées par des passages étroits. De nombreuses maisons n'ont jamais été reconstruites, les dommages de guerre versés ayant alors été utilisés pour migrer vers les villes. Dans tout le village, des indices signent certaines reconstructions d'après-guerre, comme les pentes de toit plus fortes, les entourages de fenêtres en briques d'argile et de ciment, les pierres de murs jointes au mortier de ciment, les enduits talochés, la disparition de la flamande. D'anciennes entrées de caves donnant sur rue ont été conservées, qui témoigne encore du passé viticole de la contrée. Fin du poste 4. Rendez-vous devant la maison aux arcades, visible depuis ce point. Poste 5. La maison aux arcades, le grand puits, le temps de la splendeur. La maison aux arcades. On ne trouve pas ce terme dans les archives, mais celui de maison sous le chapelet, chapelet signifiant petit chapeau, et qui rappelle que l'étage avançant jusqu'aux arcades forme la couverture d'une placette où l'on peut s'abriter. La demeure est de plan trapézoïdal. Son niveau sur galerie repose sur un solivage en chêne et carie, prenant appui dans le mur des deux maisons voisines. Les deux jolies arcades gothiques qui le supportent côté rue semblent remonter au XIVe siècle. Le pilier de droite est consolidé par un contrefort. Le grand puits. Le grand puits, très ancien mais non daté, et celui qui se trouve devant l'église sont les deux puits banaux de la cité. On en trouve également un dans la cour du château, aussi profond que le grand puits, soit 63 mètres. Il traverse toute la couche de calcaire pour rejoindre la nappe ruisselant sur l'Achille. Des citernes permettaient de capter l'eau de pluie. En 1734, le prévôt ordonna que les tas de fumier soient retirés des rues et que les porcs ne soient plus lâchés dans les rues car ils corrompaient l'eau des puits. Tout comme les puits banaux, il existait à Hattonchâtel un moulin, un pressoir et une halle de marché, dont l'usage était obligatoire et qui donnait lieu à paiement de taxes au seigneur du lieu, évêque puis marquis. Le temps de la splendeur. résidence des évêques et chef-lieu de prévôté, à Tonchâtel concentre pouvoir religieux, judiciaire, administratif et militaire pendant presque 7 siècles. Les évêques y frappent monnaie jusqu'au XIVe siècle. La ville abrite donc de nombreux nobles, officiers de justice et responsables administratifs. Les domestiques et employés habitent pour beaucoup dans les villages environnants. Du Moyen-Âge au XVIIIe siècle, c'est donc près du puits et sous les arcades de cette maison que le prévôt rendait justice au nom du seigneur d'Atonchâtel. Exemple de sentence prononcée devant les arcades. En 1568, Colin Fortement est condamné à une amende de 5 francs pour avoir donné un coup de pied au cul à Tiennette Ferron. Fin du poste 5. Prenez la rue Belskiner pour vous rendre devant la façade de la mairie. Poste 6. Façade de la mairie école, gare à la Ouivre, esplanade des cours de récré, musée Louise Cotin, panorama. Façade de la mairie. Le bâtiment précédent ayant été détruit par les bombardements de septembre 1914, un nouvel édifice, financé par Belskiner, est construit en 1923 selon les plans de l'architecte américain John Sanford. Il s'est inspiré de l'architecture médiévale, comme en témoignent les contreforts d'angle, le porche en plein cintre appuyé sur 2 colonnes ou chapiteaux sculptés, les armoires de la ville, les fausses gargouilles d'une belle facture, comme l'ensemble des ornements architecturaux, tels les encadrements des petites fenêtres ou la descente de chéneau. Gare à la Ouivre. Le porche fait un cadre à la hauteur du magnifique panorama sur la plaine de la Ouavre que l'on peut déjà admirer depuis ce point. L'archivolte est une frise de dragons qui font référence aux créatures étranges qui peuplaient la plaine marécageuse de la Ouavre avant la christianisation tardive de la région et dont la plus redoutable était la Ouivre. D'ailleurs, Ouavre et Ouivre ont la même origine et étymologie. La Ouivre est une sorte de lézard au bec crochu dont l'œil unique est un diamant. Celui qui s'en empare aura la jeunesse éternelle, mais qui croise son regard sera instantanément transformé en statue de pierre. Entrée dans la cour intérieure. La cour intérieure comporte une esplanade avec escalier donnant accès à 2 cours aménagées en jardinée à la française et au chemin de ronde qui entoure le village. La pièce à gauche est la salle de mairie. Les 2 salles de droite, aujourd'hui occupées par le musée Louise Cotin, étaient jadis le vestiaire et la salle de classe. À l'heure de la récréation, garçons et filles descendaient par l'escalier pour jouer dans leur cour attitrée. Belskiner offrit ensuite le chauffage central qui fut installé en 1929. Musée Louise Cotin. Louise Cotin, né en 1907 en Algérie, obtint en 1934 le second Grand Prix de Rome pour Ulysse et Calypso, pièce maîtresse du musée qui abrite 100 de ses toiles dont la mère du peintre a fait don à la commune d'Atonchâtel. Environ la moitié est exposée dans le musée, avec un choix renouvelé chaque année. Le musée est ouvert de mai à octobre et sur réservation toute l'année pour les groupes. Panorama. Voici l'un des plus intéressants paysages de relief dit « en cuesta » visible en Europe. C'est une absence qu'il caractérise. Saurez-vous deviner laquelle? La réponse fait l'objet du dernier commentaire de ce poste. La valorisation du paysage agricole s'est effectuée selon l'exposition et l'étagement altitudinal. Plaine de la Ouavre. Le parcellaire agricole moyen est supérieur à 100 hectares où céréales, plantes oléagineuses et prairies sont reines. Cependant, il est juxtaposé à des forêts humides drainées, à des friches et à des étangs à haute valeur patrimoniale. On aperçoit en premier plan les forêts de la localité, forêts d'Audronville, Bois de Nonsard, dites forêts basses, installées sur l'argile humide, royaume du chêne penonculé et du charme, ainsi que des délicieux champignons associés, chanterelles, septes ou trompettes des morts. Mais elles forment un espace quasi continu dans lequel il est parfois bien difficile de s'orienter. Sur votre gauche, essayez de repérer au sommet des arbres le clocher de l'église et le haut de la façade de l'abbaye en ruine du village de Saint-Benoît, distant de 5 km. Un peu plus à droite, le village de Xam, en Meurthe-et-Moselle, distant de 11 km. Est reconnaissable à son grand silo blanc. Dans la zone d'activité de Vigneul se distingue une imposante unité de fabrication de brilles. Le village de Vigneul-lès-Atonchâtel, 700 habitants, dont on voit bien l'église et devant l'église l'arrière de la mairie. À sa droite, une belle gentilhommière du XVIIIe siècle en 3 étages et son parc arboré. Dans l'axe de cette demeure, la route des côtes en direction de Toul. En arrière-plan du village, la ligne grande vitesse est, construite ici en remblai. En second plan, le lac de Madine, mis en eau en 1979, réservoir d'eau potable pour l'agglomération messine, couvrant plus de 3 km² et géré en réserve biologique par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. La butte témoin du Mont-Sec, distante de 11 km, et à sa droite, la butte du Loumont, plus allongée et séparée du front de côte par un étroit passage. Sur le Mont-Sec est construit le monument américain commémoratif de la bataille du Saillant de Saint-Mihiel. La rotonde abrite une splendide carte en relief du secteur. Un vrai trésor, notamment pour qui veut comprendre à ton châtel. La formation du Saillant par les troupes du comte-prince de Bavière donne lieu à un choc dont Maurice Genevoix donne un aperçu effrayant dans Ceux de 14. Le 20 septembre 1914, la collégiale d'Attonchâtel s'effondre sous les obus et les Allemands déploient de l'artillerie de siège sur l'éperon. L'offensive américaine de début septembre 1918 est placée sous le commandement du général Pershing. Elle vise à la réduction du Saillant, engageant en première ligne 160 000 Américains et 48 000 Français, ces derniers appartenant en majorité au 2e corps colonial français. Le 13 septembre, les 4e et 5e corps américains font leur jonction près de Vignoles et Attonchâtel. En arrière-plan, vous apercevez, à gauche, le revers de la côte de Moselle, parallèle au front de côte de Meuse, mais qui semble converger vers lui par effet de point de fuite. Une butte distante de 32 km, le Mont-Saint-Michel, à gauche du Mont-Sec, nous cache Toul. Devant cette butte s'étend l'imposant massif de la reine où Brunehaut, reine d'Austrasie, chassait le roc au VIe siècle. La côte et le revers. Les talus sont encore marqués par la déprise agricole qui se traduit par la présence de friches, de haies, de boqueteaux, de prairies sèches et de vieux vergers qui créent un maillage avec le vignoble et les vergers en production. Cette mosaïque est très favorable à la randonnée culturelle de pleine nature, mais de ce poste, on aperçoit surtout la face ombreuse des éperons, essentiellement réservés aux pâtures et à la forêt. Derrière le premier éperon visible sur votre droite, la trouée de creux est le seul passage local dans la muraille de la côte à 20 km à la ronde. Elle permet sa traversée par la ligne du train à grande vitesse entre la Wavre et la vallée de la Meuse. Les hauts de Meuse sont essentiellement couverts de la forêt haute, où domine le hêtre associé au charme. Des plantations de résineux marquent encore des emplacements bouleversés par la guerre. Quelques secteurs ombreux et fertiles sont le domaine de l'érable et du frêne. Réponse à l'énigme posée en début de lecture du panorama. Dans ce paysage où l'eau est pourtant très présente, il n'y a pas de cours d'eau majeur visible, notamment une rivière suivant le pied de la côte. Celle-ci existait bien auparavant, coulant vers la Meuse et ayant formé les grandes lignes du paysage devant vos yeux. Mais elle s'est asséchée il y a 150 000 ans à cause de la disparition de ses affluents. Ils ont été capturés par les ruisseaux affluents de la rive gauche de la Moselle, celle-ci à cause de son origine montagnarde creusant plus rapidement son lit que la Meuse. Les ruisseaux du secteur coulent donc à contre-pente topographique, les eaux allant vers l'est, c'est-à-dire vers votre gauche, et les couches de roches s'inclinant vers l'ouest, c'est-à-dire vers le bassin parisien. Mais le plus grand volume des eaux pluviales circule à faible profondeur dans le sol et sur un épaiement d'argile. Fin du poste 6. Marchez jusqu'à devant le clocher de l'église où commence le poste 7. Poste 7. Église et collégiale Saint-Maur. Une collégiale est une communauté de prêtres ou chanoines établie dans une église qui n'a pas le titre de cathédrale. Celle d'Attonchâtel, créée en 1328, était composée de 11 chanoines, avec à leur tête un prévôt et un doyen. Elle fut supprimée en 1709. Extérieur de l'église, en stationnant au niveau du clocher. L'étroitesse de l'éperon a imposé à l'église sa forme rectangulaire et son orientation nord-sud, plutôt qu'est-ouest, comme c'est le cas traditionnellement. La tour ronde est l'ancienne tour clocher. Avec ses murs d'une épaisseur d'1,35 m, elle faisait partie intégrante des fortifications et atteignait 18 mètres de hauteur en 3 étages. On y observe des archères qui permettaient le tir plongeant. Elle est à base élargie, on dit aussi empâtée, car elle sert de contrefort géant au reste de l'église. Cette tour, avec le chevet de l'église, sont les parties les plus anciennes du bâtiment et remonteraient au début du XIIIe siècle. Cette intégration de l'église dans le système défensif de la citadelle a imposé son emplacement en bordure de talus et juste en arrière du second fossé barrant l'éperon, fossé qui fut ultérieurement comblé et sur lequel vous stationnez. Le clocher actuel, construit au XIXe siècle, ne fut pas maintenu dans l'ancienne tour à cause de la mauvaise audition des cloches due à son orientation en arrière par rapport à la direction du village. Le conseil municipal de l'époque a demandé la construction d'une nouvelle tour sur le devant, côté habitation. Maintenant, marchez le long du mur de l'église, côté rue, jusqu'à la porte d'entrée. Le mur côté rue remonterait au XVIe siècle. Un arc de décharge en anse de panier à rebord saillant témoigne de l'existence d'une ancienne porte d'entrée publique qui fut ensuite murée et devant laquelle un banc en pierre fut installé. La porte d'entrée, placée sur le côté, était autrefois réservée aux chanoines pour qu'ils arrivent directement par la galerie dans l'église. Sa construction date de la campagne de travaux du XVIe siècle. Ce portail est séparé par deux pilastres qui reçoivent la retombée d'un arc en accolade très aigu, caractéristique du style gothique flamboyant. Visitez la cour du cloître. Cette construction est attribuée au XIVe siècle, mais l'élégante voûte gothique n'a été posée qu'à la fin du XVe siècle. Il ne subsiste de ce cloître qu'une galerie de 5 travées percée de baies tréflées. La partie disparue donnait sur la porte d'entrée actuelle de l'église. Au milieu se trouvait le cimetière des villageois, les nobles, les fonctionnaires et les membres du clergé étant inhumés dans l'église. Les pierres tombales étaient scellées au mur. Il n'en reste plus que 8 qui ont été placées dans l'église et dans la chapelle. Adossée à la galerie, la maison des chanoines comprenait un réfectoire et un dortoir dont il ne reste que la façade côté cloître. Les clés de voûte du cloître portent les armes de l'évêque Guillaume de Haraucourt, bienfaiteur de la collégiale. L'église a refermé le mausolée de cet évêque de Verdun, décédé à Tonchâtel le 20 février 1500. Il a également rebâti le château, si souvent détruit par les différents sièges, et embelli le cloître. Mais Guillaume de Haraucourt est surtout connu pour avoir été le premier prisonnier politique officiel de la forteresse de la Bastille. Soupçonné par le roi Louis XI d'avoir intrigué avec le cardinal de la Balue pour le livrer à Charles le Téméraire, son pire ennemi. Haraucourt compit 12 ans à la Bastille, enfermé dans une cage de fer suspendue au-dessus du sol, une de ses fillettes, dans lesquelles on ne peut se tenir ni debout ni allongé. Pendant sa détention, les Français puis le Lorrain occupèrent la forteresse d'Attonchâtel et sa châtellerie. Guillaume les récupéra après la mort de Louis XI. En 1544, elles sont cédées au duc de Lorraine qui les conservera jusqu'à la Révolution. Entrez dans l'église par son portail. Attention aux escaliers. Intérieur de l'église. La nef, voûtée d'ogives et d'arcs doubleaux, compte 4 travées séparées par des piliers du XVIe siècle. Le chœur est séparé de la nef par un arc triomphal. Le mur du fond remonte au XIIIe siècle. Placé sur le maître-autel, un retable gothique du XIVe siècle représente, sculpté en relief, des épisodes de la Passion du Christ. Il a été mutilé en 1793 sous la Terreur, comme les statues alignées le long de l'allée latérale qui ont été décapitées. D'autres statues ont été endommagées par les bombardements de 14-18. Les vitraux ont été réalisés dans les ateliers parisiens de Jacques Grubert, artiste renommé de l'école de Nancy, collaborateur de Dôme et Majorelle. Ceux du triplé en médaillon rappellent le mystère de l'Eucharistie. Ceux de la rosace, la scène du cœur de Jésus percé. L'un des 3 vitraux de la chapelle est dédié aux morts de la guerre 14-18. Accédez à la chapelle par la porte à gauche de l'autel. Jadis appelé le chapitre, c'est l'ancienne salle réservée aux chanoines, dans laquelle ils se réunissaient pour chanter et prier. Les piliers de droite remontent au XIVe siècle. Des pierres tombales sont appuyées au mur. La mieux conservée est celle de Bertrand l'Aumônier, échevin synodal, c'est-à-dire laïc chargé de veiller au respect des pratiques religieuses, de Gérard l'Aumônier, doyen de la collégiale, et de Jean Fayonnet, épouse de Jeanne l'Aumônier. Elle porte la date de 1564. Remarquez le chauffage de la chapelle, qui est assuré par un original poêle à bois à récupération de chaleur. Un interrupteur, permet l'éclairage du retable. Lygie Richier, lecture du retable. L'on sait peu de choses sur les débuts de Lygie Richier, né autour de 1500 à Saint-Miel, dans le duché de Lorraine et du Barrois, alors indépendant de la couronne de France, où il s'est marié et a fondé une famille. La première mention connue de l'artiste date de 1530 et prouve que le duc de Lorraine tenait à s'attacher ses talents. Il convient de faire un sort aux légendes qui ont longtemps accompagné la biographie arrangée de l'artiste. Lygie Richier n'est pas allé en Italie, pas plus que Michel-Ange n'est venu en Lorraine, où il aurait rencontré notre sculpteur. Le jeune artiste a pris connaissance de l'art italien auprès de maîtres qui avaient déjà acclimaté la Renaissance à la Lorraine, tel l'anonyme auteur du tombeau du duc de René II à Nancy, achevé vers 1510. Lygie Richier fut sollicité par d'importants commanditaires. Il occupa le poste de syndic des bourgeois de Saint-Miel en 1541. En 1560, il signe avec d'autres Saint-Miellois une pétition adressée au duc afin d'obtenir le libre exercice de la religion réformée. Les ordonnances publiées contre l'hérésie par l'évêque de Verdun, après le concile de Trente, le conduisent à quitter le duché. En octobre 1564, il habite Genève où il meurt en 1567. À Tronchâtel est une étape de la route Lygie-Richier mise en place par le comité départemental de tourisme de la Meuse. Lecture du retable. Un retable est un ornement peint ou sculpté représentant des épisodes de la Passion et placé au-dessus et derrière la table de l'autel dans une église. Celui-ci était fixé près du maître-autel jusqu'en 1791, puis il fut placé dans la chapelle à son emplacement actuel. Il est composé de 6 blocs de taille inégale en pierre calcaire d'une carrière des environs de Saint-Miel. Il mesure seulement 32 cm d'épaisseur pour 2,50 m de longueur et 1,70 m de hauteur. Chaque groupe de personnages a été sculpté dans un seul bloc. Pendant la guerre de 14-18, l'encadrement a été scié en deux et le retable transporté par les Allemands à la chapelle des Templiers à Metz. On voit encore la marque d'un trait de scie sur le côté du panneau latéral droit. Ce retable a été commandé en 1523 pour le doyen de la collégiale, Gauthier Richeret. Le sculpteur aurait eu alors 23 ans. C'est la première œuvre connue de l'artiste, la seule qui représente des personnages plus petits que nature et qui inclut des détails pittoresques. Remarquons la diversité des vêtements représentatifs de la mode de l'époque, par exemple les turbans portés par des hommes comme par des femmes. Dans le volet de gauche, la veste du soldat portant l'extrémité haute de la croix mérite attention. Elle comporte des manches fendues et bouffantes, nécessitant la superposition de plusieurs couches de tissu. Ces vêtements, dits « à crever », étaient très à la mode dans toute l'Europe à la Renaissance. Bientôt, les prédicateurs tonnent contre cette mode provocante et très coûteuse qui sera interdite chez les adeptes de la Réforme. Remarquons aussi la rondeur et la petite taille du cheval en premier plan du volet central, caractéristique du cheval de trait lorrain, de très bonne réputation à cette époque déjà. C'est l'ancêtre du célèbre cheval ardennais, race créée au XIXe siècle et qui aurait donc s'appelé trait lorrain, au vu du témoignage porté par l'artiste. Il porte en bouche un mors dit « à branche », confirmant le statut militaire de son cavalier. Observez l'encadrement et la table. L'ordonnancement architectural et ornemental de l'encadrement est très visiblement empreint de l'influence de la Renaissance. Il découpe l'espace en 3 compartiments séparés par des pilastres, c'est-à-dire des colonnes, décorées de rinceaux, ce sont des ornements imitant des branchages infléchis, de candélabres, ce sont des ornements faits de coupes, de vases superposés, associés à des arabesques et caractéristiques de l'art de la Renaissance. Ils sont couronnés de chapiteaux corinthiens romains, combinant volutes et feuilles d'acanthe. Ces pilastres soutiennent un entablement mouluré de frises. Le compartiment central dépasse les deux autres et s'ouvre en arc en anse de panier. Son voûtement à caisson est finement ouvragé. L'écusson central porte les armes du duc de Lorraine, qui séjournait souvent à Tonchâtel et a donc pu ainsi remarquer les talents du jeune sculpteur. Dans les angles supérieurs, on remarque 2 médaillons avec buste de Saint-Pierre et Saint-Paul pour, peut-être, manifester la foi romaine au moment où la prédiction de Luther inquiétait sérieusement le monde catholique. Sous toute la longueur du soubassement se lit l'inscription latine, en belle capitale romaine, pouvant être ainsi traduite : « Le Christ a souffert pour nous, vous laissant l'exemple afin que vous suiviez ses traces. La base des colonnes porte la date, l'an 1523. Un écu porte les armes du donateur, ainsi que ses initiales, G.R., Gaucher Richeret, doyen du chapitre. Observez maintenant les scènes de la Passion. Les traces de polychromie d'origine sont encore bien visibles. À l'inverse de l'entablement, le traitement des scènes est empreint de l'influence gothique qui marquera toute l'œuvre du sculpteur. Une fascination pour la mort, les visages et les corps en indicible souffrance. Jamais l'Higiénichier ne sculptera un sourire, ou même un visage ou un corps apaisé, sinon par la mort. Cependant, la virtuosité de leur réalisation et l'importance donnée à la participation du corps dans l'expression des sentiments confirment l'inscription de l'œuvre dans le courant de la Renaissance. Les trois volets forment un ensemble qui s'inscrit dans un triangle dont les visages du Christ marquent les angles. Toutes les grandes lignes de la composition convergent vers le crucifié. Dans le troisième volet, la silhouette de Saint Jean, courbée vers la gauche, est en symétrie avec Sainte Véronique, du premier volet, courbée vers la droite. Observez le volet de gauche, c'est le portement de croix. Sept personnages sont représentés. Le Christ regarde Sainte Véronique. Sa face angoissée, encadrée de longues boucles de cheveux, et son corps sous la croix oblique, copie une estampe de Durer publiée en 1509. Un soldat lève son fouet pour le frapper. Un autre soldat, celui qui porte des manches à crever, soutient la partie supérieure de la croix. Simon de Cyrène, sur ordre des soldats, doit participer au portage. La partie gauche de ce tableau est occupée par les cinq femmes, dont Véronique, courbée sur le linge dont elle essuie le visage du supplicié et qui s'est imprimée de son image, identique mais apaisée. Cette image est sculptée en ronde de bosse. Les ombres ainsi créées par le relief accentuent le surnaturalisme de l'apparition. La posture du corps de Véronique, cassée à la fois par le désespoir et par la vénération du linge, la surprise qui se superpose au masque de souffrance de son visage et le drapé de son manteau, tombant presque à la verticale, suffirait déjà à démontrer le génie du jeune artiste. Volet du milieu, la crucifixion. 10 personnages sont représentés. Combien y a-t-il de chevaux? La difficulté a été délibérément recherchée, comme dans un chef-d'œuvre de compagnonnage, avec la juxtaposition de nombreux personnages et animaux et leur superposition sur 4 plans. Les lignes de fuite esquissées par les bras tendus des personnages attirent l'œil vers le corps en croix. Cette scène s'inscrit dans un haut triangle montant jusqu'à la voûte dont le sommet est la tête du Christ. Son corps est détendu, son visage apaisé, comme extérieur au monde en dessous de lui. L'encombrement de l'espace terrestre et la présence de chevaux hennissants et piaffants font surgir à nos oreilles les bruits, la bousculade et les cris qui ont accompagné son agonie. Ce registre inférieur est lui-même partagé en deux. À gauche, Marie s'effondre, perdant connaissance, soutenue par Saint Jean et une sainte femme. Composition bien équilibrée, enfermée dans un ovale. En second plan, une sainte femme tend ses bras vers le Christ, tandis que Marie-Madeleine embrasse le pied de la croix. Au fond, le soldat Longin, qui vient de transpercer de sa lance le flanc de Jésus, est à présent frappé par la grâce. À droite, trois soldats se tiennent dans l'espace géométrique d'un petit triangle isocèle. Le cavalier et son cheval au premier plan sont très réalistes. Notez les détails du harnais. Le centurion est vêtu d'un manteau à collerette et coiffé d'un élégant turban. Il a le regard dirigé vers le mort et déroule une banderole portant l'inscription « Celui-ci est vraiment le Fils de Dieu ». En arrière, le visage haineux du soldat à cheval fait pendant à celui de Longin. Volet de droite. La déploration sur le Christ mort. 8 personnages sont représentés. Comme dans les deux précédents tableaux, toutes les lignes de la composition conduisent le regard vers le visage du Christ. Son corps est soulevé sous les épaules par l'apôtre Jean. Il est aidé par Marie, dont on ressent la douceur du geste de la main touchant son fils, main qui mesure à peine 4 cm. À gauche, debout, Marie Salomé, appelée aussi Salomé la Myrophore, du grec muron, parfum liquide, et phoréo, portée. Elle portait de la main gauche un pot aromate qui a disparu. À sa droite, Marie-Madeleine, en larmes bien visibles, est la seule à pouvoir extérioriser ses sentiments. À l'extrémité droite, Sainte Jeanne prépare le linceul qui enveloppera le corps du Christ. Derrière elle, le donateur du retable, messire Gauthier Richeret, prêtre doyen de la collégiale d'Attonchâtel. L'usage voulait que le donateur d'un retable y fût représenté agenouillé. Ici, le donateur fait pénitence devant Saint-Maur, évêque de Verdun 1000 ans auparavant et patron de la collégiale. L'évêque est revêtu d'une robe richement brodée, coiffé d'une mitre ornée de pierreries, et tient une crosse, belle pièce d'orfèvrerie, tous dans le style Renaissance. Cette magnificence des ornements épiscopaux, le pouvoir temporel et féodal des évêques dont Attonchâtel est l'expression manifeste, et les indulgences qu'ils menaient auprès du puissant, tout cela ne constitue-t-il pas le ferment de la réforme qui se propage en Europe et à laquelle l'artiste songe peut-être déjà à adhérer? Fin du poste 7. S'il vous plaît, fermez la lumière de la chapelle et la porte de l'église après la visite. Le poste 8, l'esplanade du château, est à quelques pas sur votre droite en sortant du cloître. Poste 8. Esplanade au marronnier, façade du château et halle normande, Belle Skinner. Esplanade au marronnier. Les marronniers sont nombreux dans le village et à ses portes, formant un autre élément d'unification paysagère. Tous sont issus de marrons ramenés par Belle Skinner de son Massachusetts natal et plantés sous son autorité. Le plus proche du château a dû être sérieusement rabattu, car penchant dangereusement, sans doute à cause de cavités mal remblayées alentour, la guerre ayant transformé en champ de ruines cet espace qui était autrefois le plus densément peuplé. Château d'Attonchâtel. Réalisé entre 1923 et 1928 en style régionaliste, alors très en vogue, sur les plans de l'architecte normand Henri Jacquelin. C'est l'une des dernières fantaisies médiévales construites en France. Le manoir de Beaumarchais, à la chapelle Bourbon, que cet architecte réalise à la même époque, est également en style régionaliste normand, tout comme son œuvre la plus connue, la Villa des Tourneroches à Saint-Cloud, édifiée en 1936. Très endommagé lors de la Première Guerre mondiale, le château est reconstruit pour le comte de Belle Skinner qui va en faire sa demeure privative pendant ses séjours en Lorraine. Lors des travaux de déblaiement, on découvrit un trésor de 400 pièces d'argent et d'or dont Belle Skinner fit don au cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale. Henri Jacquelin réutilise des éléments de l'architecture antérieure. Il dégage l'ancien fossé du IXe siècle et en fait relever les murs. Il réutilise l'arc en anse de panier qui se trouvait à l'extrémité de l'ancien couloir d'entrée pour l'inclure dans la nouvelle porte d'entrée. Le corps de logis actuel s'élève sur des soubassements du Moyen-Âge et conserve une façade sur cour avec des fenêtres à meneaux de 1614. Trois tours sont remontées sur leur fondation. Il imagine une tourelle dans l'hexagonale entre les deux ailes, visible seulement de l'intérieur, mais cette tour, comme certains éléments de la façade, sont construits en alternance de briques d'argile et de pierre, comme certains édifices normands. À la mort de Belle Skinner, le château fut légué à l'évêché de Verdun, qui retrouva ainsi son ancien bastion 4 siècles après son éviction. Il en fit une maison de retraite pour les vieux prêtres, puis une colonie de vacances, avant de céder le bien à un particulier. Aujourd'hui, le château sert de cadre à des réceptions et à des séminaires. La halle normande. Sur les conseils de son architecte, soucieux de l'équilibre visuel de la façade principale du château, Belle Skinner fit l'achat d'une authentique et moyenâgeuse halle de marché normande à pans de bois qui fut démontée et remontée à l'identique à l'extrémité sud du fossé. Le torchis est fait d'argile siliceuse et de paille auquel on ajoute un peu de bouse de vache pour limiter les risques de fissuration. En Meuse, pays de la pierre, on ne commence à trouver de l'architecture à pans de bois qu'à 40 km plus à l'ouest, dans le Pertois meusien et en Argonne. Miss Skinner. Née à Skinnerville, dans le Massachusetts, en 1866, Belle Skinner est la fille de tisseurs de soie et de velours apparentés à la famille Lewis. Pendant et après la Grande Guerre, elle intègre la Croix-Rouge et contribue à soulager les souffrances des civils en achetant et en distribuant de grandes quantités de produits de première nécessité. Elle devient présidente du comité américain de soulagement des villages français libérés. En 1919, elle décide de parrainer le village d'Attonchâtel, alors occupé par 250 habitants. Outre les reconstructions dans le village, elle achète 2 chambres à l'hôpital d'Annonville à l'usage exclusif des habitants et génère, par sa présence comme par les chantiers qu'elle finance, une importante activité économique locale. Tous les habitants l'appellent marraine. En 1920, elle reçoit la Légion d'honneur. Au printemps 1928, elle prend le bateau à New York pour s'en rendre en France et prendre livraison de son château. Mais pendant le voyage, elle contracte une pneumonie et décède à Paris le 8 avril, sans jamais l'avoir vue achevée. Après sa mort et en son hommage, son frère fit construire à l'université de Vassar, État de New York, une salle de concert appelée Skinner Hall, réalisée dans le style médiéval français et rappelant par certaines de ses lignes le château d'Hattonchâtel. Fin du poste 8. Le poste 9, la place du Moulin, se trouve à votre gauche, entre le café et le mur du jardin de la maison qui lui fait face. Poste 9, place du Moulin, la petite Provence. Ici, bien exposé aux caprices d'Éole, le moulin à vent fournissait la farine aux habitants de la citadelle. La motte du moulin, bien que partiellement rasée en 1970, reste encore visible derrière le café. La maison du café a d'abord été montée à Vigneulles et servait de bureau de poste aux soldats allemands cantonnés dans le secteur pendant le conflit 14-18. Elle fut démontée et remontée à sa place actuelle pour servir d'hébergement d'urgence à une famille sans toit. Ce genre de maison provisoire, dont quelques-unes sont encore en bon état de conservation dans la région, témoigne des années difficiles qui suivirent l'armistice dans les villages du front. La maison en face du café était construite après la guerre pour servir de pied-à-terre à Miss Skinner pendant que son château était en travaux. Depuis le muret du jardin de cette maison ou depuis la terrasse du café s'offre une vue sur la face sud de l'éperon, au pied duquel se blottit le village de Vieilleville. À l'inverse du paysage forestier du versant nord des éperons que nous avons observé depuis le belvédère de la mairie, ici la vigne, les fruitiers, les potagers et les maisons occupent majoritairement l'espace. Demeurent des pelouses sèches, dites pelouses à orchidées, où se devinent quelques genévriers. La mirabelle est reine, aux côtés de la couette, pommes, cerises et poires. Mais la pêche et l'abricot s'y plaisent aussi. Le microclimat local et le paysage végétal ont valu à la région des côtes le surnom de « Petite Provence Lorraine ». Fin du poste 9. Le poste 10, le sentier du Tour de Garde, est commenté au départ du bas de l'escalier du belvédère de la mairie. Poste 10, le sentier du Tour de Garde. Option avec accès par l'escalier du belvédère de la mairie et sortie par l'escalier du versant nord. Stationné en bas des escaliers. Les friches et les vergers ont remplacé la vigne qui couvrait tout le versant jusqu'en 1914. Les jardins potagers ont pris la place des glacis, espace libre au pied des remparts n'offrant aucune protection aux assaillants. Marchez vers la pointe de l'éperon et découvrez quelques plantes guérisseuses. Le long de cette portion de chemin bien exposée, les femmes approvisionnaient le droguier familial. De nombreuses plantes, des pelouses calcaires, ont en effet des vertus médicinales plus ou moins marquées. Sur ces secteurs, vous reconnaîtrez peut-être l'origan, aux petites fleurs mauves, aux tiges rougeâtres et de section carrée, qui peut soigner bronchite et torticolis. L'alquécange, encore appelé amour en cage, il soigne certaines maladies urinaires. L'aubépine, utile au cœur stressé. Le houblon, contre le nervosisme et l'insomnie. Le millepertuis, aux petites fleurs jaunes, parfait pour les brûlures, mais aussi pour les rhumatismes et l'anxiété. Ou encore, le bouillon blanc, utilisé contre la toux et l'entérite. Sur le mur du parc du château se récoltait le sédum, qui soigne les petites plaies, le lierre, qui est bien contre la cellulite, ou la chélidoine, encore appelée herbe aux verrues. Arrêtez-vous à la pointe de l'éperon. En quelques mètres, avec le brusque changement d'orientation du talus, la végétation des coteaux secs laisse la place à la forêt, avec présence de quelques beaux érables sycomores. Juste après le virage, progressez en regardant au quart supérieur de la pente. Vous apercevrez des gueules de terriers de blaireaux et quelques sentes bien marquées qui caractérisent la présence de ce petit ours en miniature. Ici, comme sur tout le front du saillant, blaireaux et renards vivent nombreux dans les innombrables sapes creusées par les soldats lors du conflit 14-18. Le profil de la pente est ici bien visible. L'escalade en est rude, surtout sous la menace d'armes de jet. Au temps de la citadelle, toutes les pentes de l'éperon étaient complètement déboisées pour n'offrir aucune cachette aux assaillants. On rejoint ensuite l'esplanade du château par l'escalier nord dont l'emplacement correspond à l'extrémité de l'ancien second fossé. Ici s'achève votre promenade. Nous espérons qu'elle vous a été agréable. Vous trouverez sur place café de pays et brocante, hôtel-restaurant, gîte, centre de séminaire et de réception, miel et fruits de pays. D'autres éléments du patrimoine sont visibles dans le village et ses proches alentours. Ils sont localisés et décrits dans une courte annexe qui fait suite. À bientôt, sur un autre chemin des 7 villages de Vigneulles. Autres éléments du patrimoine d'Hattonchâtel. Lavoir des Romains. Situation, à gauche après le virage en épingle à cheveux de la route vers Vigneulles. Bâti sur l'emplacement d'une source, ce lavoir donne idée de la profondeur des puits de la citadelle qui descendait à ce même niveau géologique. Ce lavoir au bassin octogonal sert à tout le village jusqu'à la reconstruction du lavoir Skinner. Il est construit en 1924 pour remplacer le précédent, détruit pendant la guerre. Il s'élève le long du chemin des Romains, qui reliait Hattonchâtel à Vigneulles avant le traçage de la route moderne. Ce chemin est un tronçon subsistant d'une importante voie romaine. Une agréable aire de pique-nique y est aménagée. Le château d'eau. Situation, à droite, en sortant du village, par la tranchée de Calonne. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, Miss Skinner permet à tous les habitants de bénéficier de l'eau courante. Le château d'eau et l'adduction sont inaugurés le 13 septembre 1920, en présence du général-gouverneur de Metz, du sous-préfet, d'un représentant de l'ambassadeur américain et du maire, Jean Aldric. Fontaine allemande. Situation, à gauche, après la sortie du village, par la route de Vieilleville. Avec plus de 6 millions de chevaux engagés sur le front, l'eau devint un enjeu hautement stratégique pour les belligérants de la Grande Guerre. De nombreux aménagements liés à l'eau demeurent dans la région qui furent réalisés par les Allemands durant l'occupation de 14-18 et qui témoignent de leur préoccupation pour l'or bleu. Châteaux d'eau, citernes enterrées, digues, abreuvoirs et fontaines plus ou moins ornées. Cimetière. Situation, à gauche, à la sortie du village par la route de Vigneulles. Belle Skinner finança la reconstruction du mur d'enceinte, du porche et de l'offertoire de ce cimetière construit au milieu du XIXe siècle et à l'extérieur du village, suite aux épidémies de choléra qui frappèrent durement la Meuse. On y trouve un monument funéraire du XIXe siècle épargné par les bombes et la tombe de l'abbé Jean Denet, curé d'Hattonchâtel de 1929 à 1973. Il est l'auteur d'un ouvrage sur les chartres de l'abbaye de Saint-Benoît au Havre et d'un livre sur l'histoire d'Hattonchâtel, fruit de 20 années de recherche dont sont extraites de nombreuses informations du présent livret. Tranchée de Calonne. La tranchée de Calonne est une route forestière qui ne traverse aucun village sur plus de 25 km et qui relie Hattonchâtel à Verdun. Connue depuis le Moyen-Âge sous le nom de Chemin des Carabins, elle fut élargie et restaurée vers 1786 caprice de Charles-Alexandre de Calonne, ministre de Louis XVI et intendant des trois évêchés. Il en ordonna la réalisation afin de desservir directement son château d'Agnonville-sous-les-Côtes, mais aussi de faciliter la chasse sur son vaste domaine forestier. Responsable du projet, Jean-Claude Zingerlet, maire de Vigneulles, Dominique Manzé, maire délégué d'Hattonchâtel, et Angèle Balosso, premier adjoint. Personne ressources, Jean-Pierre Viexorec, architecte, chargé de mission au Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement du département de la Meuse, et Jean-Luc Lécaillon, instituteur à Vigneulles. Aide à la prise de son, Pascal Bloch. Conception, rédaction et voix, Sylvain Thomasin.